OK. Plusieurs pensées. On veut vraiment avoir quelque chose qui va venir du message. On veut vraiment, Seigneur, nourris-moi. Nourris-moi, Seigneur. Nous sommes dimanche, le 18 juillet, à Baltimore. Pasteur Chaleur va prêcher. On enregistre ce message. Je veux une bonne attitude. Je veux avoir une bonne attitude. Je veux que mes frères et mes sœurs, mes voisins, je veux qu'ils soient bénis. Dites à votre voisin, je veux que tu sois béni. Je veux que vous soyez bénis. On va maintenant, on va avoir un message dans Proverbe 18, verset 17. Un message dans Proverbe, chapitre 18, verset 17. Asseyez-vous. On va avoir un message qui va vraiment nous pénétrer. On a un voyage en Israël, octobre le 13, le 13 octobre. Huit jours, venez avec nous à Israël. Pendant 8 jours, c'est 1 200 $. L'enregistrement, c'est ouvert maintenant. $400 de dépôt avant le 13 août. Il y a des les places sont limitées. Ça serait super si vous pouvez aller à Israël. Priez à propos de ça. Priez à propos de ça devant Dieu. Priez. J'ai été là-bas souvent. Je n'avais jamais été pendant 30 ans. Lorsque j'y suis allé, j'ai vu la mer de la Galilée. J'ai vu la mer de la Galilée en direct, la ville de David. Et beaucoup de choses, et le désert, et Césarée, et les ruines, et Capernaum. On a vu tout ça physiquement. D'une certaine mesure aussi, Dieu vous dirige, si vous pouvez. Vous êtes bienvenus. Signez pour ça. $1 200, l'hôtel et la nourriture et le car et le voyage. Et vous devez acheter votre propre billet d'avion. Proverbe chapitre 18, verset 17. Celui qui est premier, il plaide pour sa cause. Il apparaît d'être juste, d'avoir raison. Mais son voisin vient et l'étudie. C'est un verset incroyable lorsque tu peux prendre un proverbe et tu peux voir un message à l'intérieur de ce proverbe. Tu peux l'étudier, y penser. Regarde le verset. Celui qui est en premier, il plaide pour sa propre cause. De se flatter soi-même, c'est dans notre nature. On chérit cela, de se flatter soi-même. Un autre point de commencement pour nous, on devrait enseigner sur la nouvelle naissance que vous avez. Tu dois être né de nouveau. Tu dois être né de nouveau. Tu dois avoir une naissance spirituelle en croyant à Christ. Lorsque tu crois en Christ, tu es né de Dieu. Il te donne un nouveau cœur. Un nouveau cœur et un nouvel esprit. Tu as deux importantes choses immatérielles, invisibles, deux éléments ajoutés à ta vie. Un nouveau cœur et un nouvel esprit, le Saint-Esprit qui est en toi. Ça, c'est une nouvelle capacité. C'est une nouvelle vie, c'est Christ en toi. Christ qui est né en toi. Tu es né de Dieu. C'est un miracle. C'est 1 Pierre 1, 23. D'être né de nouveau, pas de semence corruptible, mais de semence incorruptible de la parole de Dieu qui demeure pour toujours. Nicodème, tu dois être né de nouveau. Jean 3, 5. pas par les œuvres de la justice que l'on a fait, mais par sa miséricorde, il nous a sauvés. Il nous a régénérés. Régénérés, ça vient des gènes, c'est un matériel génétique, médical. On est régénérés, de nouveaux gènes, un nouveau cœur, un nouvel esprit, né de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, donc, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cet homme-là a un nouveau cœur et un nouvel esprit. C'est une joie constante d'entendre des gens qui ont une nouvelle naissance. Ce que ça signifie pour eux, comment ça les affecte, leur nouvelle capacité. Un frère en Équateur, il m'a dit, je n'ai vraiment jamais eu un moment où je peux dire que je suis né de nouveau, mais je suis né de nouveau, j'ai été, après des années plus tard, j'ai reconnu que j'étais différent. J'avais changé. Je grandis. J'apprends. Je ne fais plus ces choses-là. Ces choses-là se sont dissipées. J'ai cet espoir, cet amour, un sens général du bien-être. Je ne déteste personne, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas effrayé, je ne suis pas envieux, j'ai une nouvelle vie. Dieu m'a libéré. J'ai la joie à l'intérieur dans mon cœur. De ton estomac sortira les eaux de vie. Ainsi parle le Saint-Esprit dans Jean 7, verset 37. Ça, c'est important pour ce que je veux dire ce matin. Dans ce proverbe, ce nouveau cœur nous a donné une capacité pour la vie. Où l'on peut entendre la vérité et l'on peut recevoir. On entend et on croit et on fait confiance. Allez au proverbe chapitre 18, verset 17. Celui qui est premier de sa propre cause, qui plaide pour sa cause, et il parle en premier. J'étais dans un accident de voiture. Je suis rentré. J'ai vu l'accident. Après l'accident, j'ai regardé, j'ai revu. J'ai réalisé ce qui s'est passé. J'ai revu tout ça. Il y a une autre personne dans l'accident. C'est un exemple, ça. Ils ont leur point de vue. Mais moi, j'étais premier dans ma cause. J'étais là tout d'abord dans ce qui s'est passé, en premier. J'ai mon histoire. Et lui, et l'autre là-bas, dans son point de vue, il est premier lui aussi. Il passe en premier. Il a son histoire à lui de ce qui s'est passé dans l'accident. Un enfant à l'école, ils ont leur point de vue. L'enseignant vient et il le recherche, il étudie. Dans un mari, le mariage, le mari a son point de vue et la femme a son point de vue. Dans un business, dans une affaire, un employé a son point de vue ou son point de vue à elle. Le manager a son point de vue à lui, sa façon de voir les choses. C'est normal pour chacun d'entre nous. Il y a des gens qui sont très confiants. Ils sont tellement sûrs qu'ils ont raison dans leur point de vue. Et certains d'entre eux ne veulent pas un voisin qui vienne, qui va les tester et les étudier. Ils veulent pas d'interférence. Ils ont leur propre point de vue. Ils veulent pas que quelqu'un soit en désaccord avec eux. Ils ont leur propre point de vue. Ils sont sûrs et ils sont convaincus qu'ils ont raison et c'est comme ça que c'est. C'est ça ce que le proverbe veut dire ici. Verset 17. Celui qui est le premier dans sa cause, apparemment, il semblerait qu'il est juste. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible? Beaucoup d'endroits dans la Bible, je vais vous donner trois exemples ce matin. Le premier, Dieu. Ça paraît drôle, mais Dieu, il est premier dans sa propre cause, dans ses droits. Il dit, je suis Dieu. Je suis le véritable Dieu. Écoutez ceci. Tu peux me tester. Tu peux faire ton enquête sur moi. Tu peux poser des questions. Je suis la vérité. Je suis Dieu. Je suis tout à fait sûr à propos de moi. Proverbe 21, verset 30. Il n'y a pas de sagesse, aucun conseil, aucune compréhension contre le Seigneur. 2 Corinthiens 13, 8. Tu ne peux rien faire contre la vérité. La vérité resurface toujours. Dans le monde de mensonges, avez-vous remarqué? On est dans un monde où le mensonge, c'est une grande partie de la vie. Et vous et moi, nous sommes menteurs. Tu peux penser que tu as raison, mais il est dit dans les proverbes, ton voisin va venir et va te vérifier. Ton voisin va venir. Il va argumenter son cas avec toi. Pourquoi est-ce que je dis ça aujourd'hui? Parce que je pense qu'il y a un grand besoin pour nous de réaliser que nous voulons la vérité et nous voulons vivre dans la vérité. Et le Saint-Esprit est celui qui nous a promis de nous diriger dans la vérité et de nous guider. Et parfois, on a tort. Parfois, on a besoin d'être corrigé. Et parfois, tout le temps, on doit être ouvert à la correction. Mais je pense, on peut dire tous d'entre nous, parfois, à certains moments, on est arrogant et tellement confiant que l'on a raison. On ne veut pas entendre un autre point de vue. Mais Dieu, il est tellement en sécurité par rapport à lui-même et il est la vérité. Dans sa nature, il n'y a pas de compétition. Mais il nous permet de lui dire, il nous autorise. Lui nous dit, viens, raisonnons ensemble, viens, venez. Quand est-ce que j'étais fatigué? Michée chapitre 6, verset 3. Où est-ce que j'étais fatigué, toi? Viens, aie ton argument avec moi, ta dispute. Parle-moi, je suis Dieu. N'est-ce pas bon, ça? Il n'y a pas de compétition. Je suis Dieu. Même s'il est Dieu, il nous enseigne quelque chose par sa grande humilité. Et lorsque Christ est venu dans ce monde, en fait, il a dit, vas-y, pousse et pique, et vas-y, frappe-moi, abuse-moi, percez-moi, et je vais revenir ressusciter. Des morts, je suis Dieu. Cette vérité est en nous, dans notre nouveau cœur et dans notre nouvel esprit. C'est plus que de gagner un argument, c'est de manifester la nature de Dieu. Ça, c'est notre appel. La nature de Dieu peut dire, je suis ici, je suis persuadé, nous sommes persuadés dans notre cœur. Deuxième point. Le christianisme est testé dans le livre des actes. Le christianisme est testé. Acte 5, 39. Gamaliel dit, on va lire le verset. Acte chapitre 5, verset 39. Dans quelques minutes, ça va devenir un petit peu plus épicé maintenant là. Un petit peu plus piquant, là. La crainte de Dieu. La naissance de l'Église, il est parlé ici. L'Esprit qui bouge dans l'Église. Les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. L'Église est ici, aux États-Unis. De certaines mesures, certaines ont été enlevées. Certaines églises n'ont pas réouvert depuis. C'est fini pour certains. C'est ok pour moi, ce n'est pas mes affaires à moi, c'est le business de Dieu. Mais je peux dire pour vous et moi, c'est un moment maintenant d'apprendre et d'avoir des profondeurs dans notre compréhension, afin que l'on ne s'éloigne pas. Mais tu grandis dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Tu as cette vérité dans ton esprit et dans ton cœur et ça résonne en toi. Tu grandis. Parfois, nous restons comme des enfants émotionnellement. On est comme des enfants mentalement. Pas par rapport à la connaissance et à la compréhension, mais il est dit, dans la malice, soyez des enfants, mais dans votre compréhension, soyez des hommes. Notre compréhension est très importante pour nous. J'aurais quitté la foi souvent, mais je ne pouvais pas, grâce à ma compréhension. J'ai compris d'une certaine façon, un petit peu. Je ne peux jamais quitter. Je ne peux pas quitter, abandonner. C'est trop bon, c'est trop incroyable. Où est-ce que tu as appris ça? J'ai appris ça dans l'église, dans ma Bible et dans l'église. Et le Saint-Esprit, j'ai appris l'histoire de l'église, ce que c'est. Gamaliel a dit, sage avec sagesse, si ça vient de Dieu, tu ne peux pas le retourner, tu ne peux pas le faire chuter. Les églises aux États-Unis, c'est laodicéen, certaines d'entre elles, ils ont été enlevés, rebougés. Les gens, peut-être même, ne sont pas des croyants, ils ne croient pas. Et ils continuent à aller avec le monde, ça coule avec le flot. Ils sont nés de nouveau, certains, ils ont crise dans leur cœur. Peut-être pas, non. C'est une activité sociale pour certains d'entre eux. Comme une équipe de baseball, ou un cercle où on se rencontre, des amis, d'autres organisations, un parti politique. L'Église est faite de gens qui ont le Saint-Esprit qui demeure en eux, avec un nouveau cœur et un nouvel esprit. Et ça, ce sont les gens qui ont la compréhension et avec ce que l'on essaie de dire aujourd'hui. Les baptistes, nous sommes les premiers dans notre cause, mais mon voisin vient et il étudie. Et il me pince là. Il me pose des questions. Ils veulent détruire. Ils ont un argument contre cela. Laisse-les faire. Vas-y. Vas-y. Si c'est de Dieu, si c'est Christ ici, Christ a vaincu le monde. Christ est assis sur le trône à la main droite de Dieu. Christ a envoyé le Saint-Esprit qui est Dieu, lui-même qui demeure en nous. On a des convictions dans notre cœur. On est persuadé. Mais l'autre côté de cela, on peut être arrogant. Ce papier, je vais vous lire là, ce qui a été écrit. On est tellement prêt à présenter notre propre cause. Inconsciemment, parfois, on jette une ombre sur notre cause ou on oublie de penser ce qui va balancer sur l'autre côté. Tu penses, tu peux faire un argument sur un cas et tu peux faire apparaître comme ce que ça va être. Et ça vient de nous-mêmes, de notre propre intérêt. Apparemment, il semblerait que tout d'abord, mon voisin, qui lui est, il a l'habitude avec le véritable cas, il va nous étudier, il va exposer nos erreurs et il nous fait la honte. Souvent, à long terme, les créditeurs, ceux qui ont leur maison, les propriétaires, un enseignant à l'école, il peut prouver que j'ai tort. Un créditeur, un propriétaire, il peut prouver, eux, ils peuvent prouver leur cas. Et moi, je suis corrigé face à eux. On voit d'un proverbe l'idée que moi, j'ai raison. Je veux que ça soit comme ça et je garde ça de cette façon-là. Et moi, j'ai raison. J'ai été un pasteur, moi, pendant plus de 45 ans. Et j'ai vu des choses tristes se passer avec les gens. Ils ne peuvent pas être corrigés. Ils ne veulent pas être corrigés, parfois, les gens. Ils ne peuvent pas dire, j'ai tort. Ils ne peuvent pas être humbles. Ils sont blessés lorsqu'ils ont tort. Ils couvrent la chose. Ils le cachent. Ils s'en vont. Ils désertent. Ils ont un argument contre ça. Ils renient. Ils disparaissent. Les gens refusent de faire face à la réalité. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Le point numéro 3 ici, dans notre liste, ce sont les affaires personnelles dans la vie. Offense personnelle, c'est là où on va terminer. Matthieu, chapitre 18. Je veux vous aider et je veux que vous me compreniez ce matin, aujourd'hui, dans ce message, parce que je pense le culte à 9h ce matin, avant, on était vraiment bouleversés par le culte. On a rencontré des gens dans la cafétéria après ce matin. Un nombre de gens ont dit c'était important ce message. Donc voici Matthieu chapitre 18. On va s'amuser un petit peu. Si vous pouvez tourner vers votre voisin et lui dire, et dites à votre voisin, est-ce que tu pourrais être corrigé dans ta vie et oser dire que tu as eu tort. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui? Dites ça là, les uns aux autres. Est-ce que moi, je pourrais être corrigé dans ma vie et reconnaître que j'ai tort? Parfois, ou souvent, ou tout le temps. Ok. Matthieu chapitre 18, verset 4, verset 3. Je vous le dis en vérité, à moins que vous ne soyez convertis et que vous ne deveniez comme des petits-enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume du ciel. Devenir comme un petit-enfant. Est-ce qu'un petit enfant peut être corrigé? Est-ce qu'il peut être corrigé? Oui, souvent. Souvent, c'est comme ça qu'ils vivent. Ne fais pas cela. Mets ta fourchette sur la table. Nettoie. Johnny, va à la toilette et lave tes mains et tu peux revenir ici. Nos enfants, ils sont faciles à corriger. Ils sont faciles à diriger, à guider. Il y en a qui disent non, bon, ok. Certains disent non dans l'assemblée, mais on les entraîne. Si vous viviez d'une certaine façon dans votre famille, je suis en train de lire un livre sur le Hillbillies, c'est un groupe dans les montagnes. Un groupe d'entre nous, on va aller dans la Virginie de l'Ouest, dans 2 semaines, on va être là-bas. Mais je suis intéressé dans ce groupe de gens, qui sont vraiment une sous-culture, un groupe. Ils ont des normes, leurs propres standards de vie. C'est des gens qui vivent dans les montagnes, un peu éloignés, en dehors de la société, un peu. Ils ont des habitudes qui forment comment ils se parlent les uns les autres, la haine, la jalousie, comment ils sont dysfonctionnels, la loyauté, façon dramatique souvent dans ces maisons. Et souvent, il y a des bonnes choses aussi. Il y a des bonnes choses aussi, mais avec des mauvais côtés de la chose aussi, qui n'est pas bon. Comment? Quel genre de famille vous avez grandi? Comment? Qu'avez-vous appris? Avez-vous jamais eu appris, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi, j'ai tort. Je suis désolé. Peut-être pas. Peut-être vous avez jamais appris cela. Maintenant, tu es dans une église, tu lis la Bible et tu apprends. Et Jésus nous dit, tu dois changer. Tu dois être changé. Il y a des gens qui disent, je ne veux pas changer. Je suis juste. J'ai ma propre cause, mon propre cas. La vie arrive, elle va étudier et te chercher dans les profondeurs. Et on voit que tu n'as rien mais que de l'orgueil. Tu n'as rien mais que du drame. de l'orgueil, que de la colère, de la haine et de la dépression et de la crainte. Donc, lorsque j'arrive à cet endroit dans ma vie, en tant que jeune homme, je réalise, je ne fais pas confiance en ce que j'ai. J'ai besoin d'avoir quelque chose d'autre. Et un jour, sur le campus où j'étais, dans l'université où j'allais, quand quelqu'un m'a parlé de Jésus-Christ, et j'ai dit, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de Dieu. Je veux Dieu. Je veux pas la religion. Je veux Dieu. Je veux Dieu dans ma vie. Lundi et mardi et mercredi, je veux Dieu. Si Dieu a fait les baleines, c'est super. Si Dieu crée les poissons dans la mer, amen. Je veux Dieu. Je veux ce genre de Dieu-là. Je veux un Dieu vivant. C'est ce que je veux. Tu deviens maintenant comme quelqu'un qui est vulnérable parce que tu as besoin de lui. Mais il y a tellement d'orgueil dans les gens. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin de lui. Mais ils meurent. Ils ont soif de lui. Ils ont besoin de lui. L'Amérique est dans une crise parce que les gens vivent ils vivent une vie licencieuse, une vie sexuelle, promiscuité, une vie d'amusement, une vie de s'entretenir. On s'étouffe sur notre amusement et on n'a pas de contenu dans nos vies. Le contenu doit commencer en disant, j'ai tort, j'ai besoin de Dieu. La vie peut me chercher, la vie peut venir chercher ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Pénétrez-moi et j'ai Jésus. Jésus dure pour toujours. Jésus m'a fait ça. Christ a vaincu. Christ est la réponse. J'ai ce que j'avais besoin. Venez et cherchez-moi. Et, en plus, j'ai tort. J'ai besoin d'aide. Enseigne-moi, corrige-moi. La médaille d'or dans les Olympiques, qu'est-ce qu'il n'avait pas? Il n'y a pas eu de confrontation. Visage face à face avec l'entraîneur. L'entraîneur, le manager, il devrait être un gars qui est dur. Il devrait vous dire la vérité. Et toi, en tant qu'un athlète, tu vas recevoir, oui monsieur, merci. J'ai besoin de cet entraînement. Enseigne-moi plus. Entraîne-moi plus. Pousse-moi. Je veux devenir un athlète. Je veux gagner. On regarde les Olympiques à la télévision chaque 4 ans et tout le monde est émerveillé et ensuite on continue, on retourne à notre vie mondaine la semaine après, on continue à vivre, on veut pas payer le prix d'être un vainqueur. Mais est-ce qu'on veut gagner? Pas une couronne corruptible, on veut gagner le point, c'est le point de glorifier Dieu, d'être en vie. On veut vivre pour un but, pour un dessein. On veut Dieu dans notre vie. On veut gagner. Et en passant par là, lorsqu'on gagne avec Dieu, on gagne dans toutes sortes de domaines. Ton mariage, probablement ça va sauver ton mariage. Si tu gagnes Dieu, probablement ça va gagner ton mariage. Tu vas gagner des amis, tu vas être promu au travail. Ton caractère, peut-être tu vas être renvoyé. Mais lorsque tu es renvoyé, ça va être une promotion. Parce que Dieu est avec toi. Tu es un vainqueur. Allons au texte. Matthieu 18, verset 4. Celui qui va s'humilier lui-même comme ce petit enfant, il aime ça Jésus. Le petit enfant, l'humilité, d'être humble. Dirige-moi. Aide-moi. Où il est mon verre de lait et mon petit biscuit, mon cookie? J'ai besoin de toi. Où est-ce que je vais dormir ce soir? J'ai besoin d'aide. Le petit enfant va dire. Ils sont les plus grands dans le royaume du ciel. Le royaume de Dieu. Verset 7. Malheur au monde à cause des offenses. Voici un bon mot qui arrive là. Le bon mot, les offenses. As-tu jamais été offensé, calomnié, dit des choses mauvaises à propos de toi? C'est tellement facile pour les gens de calomnier les autres. Tu vas au téléphone, tu parles avec quelqu'un. Hey, Ed, j'étais avec Bill l'autre jour, il m'a dit, il ne t'aime pas. Ed, Bill ne t'aime pas. C'est un exemple. On était à McDonald's, on discutait, on parlait, et lui, là, il m'a dit qu'il ne t'aime pas. Je ne sais pas pourquoi, mais Bill ne t'aime pas, Ed. C'est comme ça que c'est. Je suis désolé. Il parle un petit peu. Il est assis à la maison, il est surpris. Quoi? Ça s'est passé envers moi. Ça s'est passé. Quelqu'un avait un problème avec moi, je les ai téléphonés. Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas? C'était une vraie histoire. Parce que Chaleur a appelé quelqu'un. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Je comprends pas. Ils m'ont donné le nom. Cette personne m'a téléphoné et m'a dit que toi, tu ne m'aimes pas. J'ai aucune idée de ce que tu racontes là. Tu es mon ami. Je n'ai aucune idée pourquoi ils ont dit cela. Je n'ai jamais rien dit comme ça. Tu es mon ami et c'est tout. Wow. Dans quel genre de monde on vit? On vit dans un monde d'offense. Les gens sont offensés. On vit dans un monde de mensonges, de cœurs méchants. Ils font des choses méchantes. On est dans un monde où tu peux... Si Jésus est mort sur la croix à cause des offenses... Mais c'est OK. C'est OK, c'est ce qu'il dit, lui. Malheur à ceux par qui l'offense vient. Malheur à celui par qui l'offense arrive. Mais, sois habitué à cela. Ça arrive au travail, ça arrive dans ta famille, tes amis, dans l'église, dans le monde des affaires, du business, dans le monde que lorsque tu es jeune, lorsque tu es vieux. Les offenses viendront, mais, verset 8, si ton pied t'offense ou ta main, maintenant tu as une offense avec ton corps, ton œil, ton pied ou ta main. J'ai des offenses à l'extérieur, un coup de téléphone, un avocat qui va m'amener au tribunal, me poursuivre, ou une personne qui va en prison, qui est innocente. Ils ont une offense de cette façon-là. J'ai une offense à moi-même. Ma main, mon pied, mon œil, c'est tellement facile de dire je suis dans les problèmes dans la vie, je suis troublé. Il continue. Il dit, verset 15, en plus, si ton frère trespasse contre toi, va lui dire sa faute entre toi et lui, tout seul. S'il t'entend et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Allons à ce proverbe encore là. Proverbe 18, verset 17. Celui qui est premier dans sa propre cause, c'est ton frère. Il t'offense. Il apparaît, il a raison. Il t'a offensé. Tu vas à lui parce que tu es le voisin. Son voisin vient et il étudie. Et il t'entend, il t'écoute. Il te dit, merci, tu m'as corrigé. Oh, pardonne-moi, je suis désolé. Je suis désolé, je t'ai offensé. Il t'entend. Tu as une unité. Il a vu, il a un point de vue, sa pensée est fixe. Dans sa pensée, il avait raison. Mais son voisin est venu et il a dit, attends. Attends. Ça me fait de la peine. Ça me fait du mal. Je veux que tu comprennes l'histoire complète. Jésus dit, comprenez-le. Comprends-le. Je te comprends. Je suis désolé. J'ai fait ça, j'étais fou. J'ai pas réalisé là. je voulais pas faire cela, c'était pas mon intention, mais le point, c'est l'unité. Il t'a entendu. L'unité. J'habitais dans un autre pays. J'ai dit à l'église, ne prêtez pas de l'argent aux gens en général. Pourquoi? Parce qu'ils ne te le rendent pas. Si tu prêtes l'argent, donne-le, c'est perdu. Peut-être ils te paieront en banque, peut-être ils vont te payer en retour, peut-être pas. Peut-être ils vont arrêter de venir à l'église parce que tu as un embarrassement. Ils sont embarrassés, ils t'ont prêté de l'argent. Ou bien ils vont blâmer l'église, ils vont perdre des amis. Peut-être tu vas perdre 3 ou 4 personnes à cause de cette histoire d'argent. Ils blâment l'église et ça n'a rien à voir avec l'église. On a dit, ne faites pas cela, ne prêtez pas de l'argent, à moins que tu es prêt à perdre cet argent. Et c'est mieux d'abandonner, de le donner si tu as prêté. Les gens sont offensés. Les gens sont offensés. Ils prêtent l'argent et l'argent ne leur est pas retourné. Et ça a disparu et c'est fini. Ils ont la culpabilité ou la honte. Ça se passe, cela. Qu'est-ce que Jésus dit ici? S'il t'entend, ton voisin, tu as gagné ton frère. J'aime ça à propos de nous. Je peux avoir tort. Je peux avoir tort. Est-ce qu'on peut mettre ça clairement sur le celui, il semblerait, il a peut-être, mais mon voisin vient et je pourrais avoir tort. Mon voisin vient et me vérifie, il m'analyse. C'est comme Dieu. Je veux la vérité. Dieu dit, chacun d'entre nous, on a une nature pécheresse et chacun d'entre nous, on a tort à des moments différents. On n'a pas raison. On ne voit pas la chose complète, entièrement. On ne réalise pas que l'on pourrait avoir tort. C'est incroyable. J'aimerais vous donner plus d'exemples. Est-ce que vous pouvez faire une blague à propos de vous-même? Ça, c'est un bon indicateur. Un homme d'affaires, il avait un membre sur son équipe là, il y avait un des membres là sur le secrétaire, il a dit, tu ne souris jamais, tu ne ris jamais. C'est une bonne, j'ai un problème avec ça, tu ne ris, tu ne souris jamais. C'est une bonne petite histoire ça. Les gens qui sont en bonne santé, ils peuvent dire, je peux avoir tort. Ils peuvent rire à propos de ça, parce qu'ils n'ont pas toujours raison. Ils ne se protègent pas eux-mêmes. J'avais tort, oui. Est-ce que vous pouvez dire une histoire drôle, comment vous aviez tort, de certaines façons dans la vie? J'essayais de démarrer la voiture, j'ai pas pu la démarrer, j'ai vérifié tout, la clé, ça n'a pas marché. J'ai appelé le mécanicien, il est venu. Il a dit, tu dois mettre la vitesse sur le neutre. Donc la voiture peut démarrer. Le levier de vitesse sur le neutre. Oh! Est-ce que tu as quelque chose comme ça dans ta vie? Est-ce que tu peux rire à propos de toi-même? Est-ce que tu réalises que tu pourrais avoir tort? Et lorsque tu as tort et quelqu'un te confronte, tu peux accepter cela, tu peux l'accepter et l'admettre et être en unité avec ton frère ou ta sœur. Mais tu es offensé et tu es offensé et tu t'éloignes là. Je pense. Je me sens comme si je suis dans une salle de classe à l'école, comme si j'enseignais des enfants ici. Mais non, je suis avec vous là, tout le monde. L'âge moyen ici, c'est 50 ans. On n'est pas dans... C'est la classe différente. Chapitre, verset 16 de Matthieu 18. Mais s'il ne t'entend pas, As-tu jamais rencontré quelqu'un qui n'a jamais tort, il ne peut pas être corrigé? As-tu jamais rencontré quelqu'un qui n'a jamais tort? Il s'éloigne de la conversation, il est en colère. Tu n'as pas l'unité avec eux, tu ne peux pas être en accord avec eux. As-tu jamais rencontré ça? Quelqu'un comme ça? On ne peut pas être des enfants de cette façon-là. On doit devenir, on doit être plus mûr dans notre compréhension, afin que l'on devienne comme des enfants. Mais on ne peut pas être un adulte comme un enfant qui avait 40 ans, il ne peut pas être corrigé, il ne t'entend pas, il ne peut pas être guidé. Non, on a été converti, on a changé. On peut supporter cela, on peut encaisser cela. On est capable d'aimer, de pardonner. On est capable d'avoir honte. Regarde la croix, la honte. Jésus dit, je suis Dieu, mais je suis nu. Et humainement parlant, c'est la honte. J'ai été ridiculisé, on m'a rejeté, mais je peux le supporter. Je peux accepter cela dans les affaires de l'humanité. Est-ce que tu peux accepter la honte ou le ridicule? Oui, grâce à notre nouvelle naissance, la vérité en nous. On n'a pas besoin d'être important. Nous sommes importants, nous sommes ses enfants. On n'a pas besoin de gagner. On a gagné déjà. On est victorieux en lui. Je n'ai pas besoin de gagner tous les arguments. Je n'ai pas besoin de gagner. Je veux être d'accord avec mon frère. Qu'est-ce que je peux faire pour la cause de l'unité? Qu'est-ce que je peux sacrifier pour la cause de l'unité? Peut-être d'être pendu à la croix. Il est dit, donnez votre vie pour vos frères. 1 Jean 3, verset 17. S'il ne va pas t'entendre, prenez un ou deux frères. Donc, c'est comme là s'il y avait une réunion administrative, les gens qui vont revoir le cas, s'ils négligent de t'entendre, ils ne vont pas écouter personne, ils ne vont pas être corrigés. Dites cela à l'église. Si il ne veut pas écouter l'église, traitez-le comme un publicain. J'ai rencontré des pasteurs qui ont pris cette position. Des pasteurs qui refusaient d'être corrigés. Ils ne voulaient pas entendre. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. C'était pas l'humilité. C'était pas l'unité. C'était pas l'amour. Ils voulaient gagner un argument. Si mon voisin vient et m'analyse, il me corrige, montre-moi. On doit voir l'image qui est plus grande que ça. Il y a beaucoup de choses là qui sont mises en cause. On a besoin de l'amour, de la communion, de l'union. Le frère vient et dit, c'est ma façon à moi, ou bien la voix haute. Moi, je vais mon chemin à moi. Ils vont leur chemin à eux, mais la vie va nous rattraper. Tu n'es pas un gars qui est humble. N'est-ce que pas, la Bible n'est-elle pas à propos de l'humilité? C'est le plus grand mot que l'on peut avoir. Regarde cet homme sur la croix là-bas. N'est-ce pas l'humilité? L'humilité, la soumission à Dieu. Le connaître et d'être humble et mourir pour le coupable. Ou bien d'être d'accord avec mon adversaire. Peut-être je ne comprends pas tout cela. J'ai besoin d'aide et je ne suis pas d'accord avec vous, mais ayons notre communion en Christ avec l'amour. C'est comme ça que notre mariage est guéri. Ce n'est pas de gagner ma façon à moi. C'est trouver Jésus et d'aimer mon mari, et d'aimer ma femme d'une nouvelle façon. La façon de Dieu, dans l'esprit de Dieu. La façon de Dieu. C'est comme cela que l'Église va bien être d'accord ensemble à l'unité. Aujourd'hui, on a une équipe, un groupe qui sont allés au Dakota du Sud. C'est comme cela que l'on opère nos activités, des outreach ici à l'église cet été. Lorsque des frères demeurent ensemble dans l'unité, Dieu commande une bénédiction. Et c'est cela que l'on sent dans notre Église et dans notre relation, les uns avec les autres. On a un accroissement de Dieu. Ça peut paraître facile, mais c'est difficile parfois de dire, tu sais, tu as raison. J'ai besoin que le Saint-Esprit me remplisse et que je sois restauré et d'être un avec mon frère ou ma sœur. Il termine ici et il dit cela. Verset 20. Là où deux ou trois sont ensemble, dans mon nom, ils sont réconciliés ici. Ils sont à mon nom. Ils sont ensemble réconciliés. Moi, je suis là, au milieu d'eux. Il y a quelque chose de plus ici que les gens qui se rassemblent ensemble. On a son nom. Il est là, au milieu. Et ça satisfait notre âme. J'ai pas besoin d'aller boire un autre verre d'alcool ou bien de prendre de la drogue, de narcotiques. Je n'ai pas besoin d'aller m'amuser moi-même ou de chercher une autre vacance ou une autre pile d'argent, une autre femme, une autre petite amie. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là. C'est ça que le monde dit. Tu as besoin de ça, tu as besoin de ça et de ça. Non. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin d'unité avec mes frères et mes sœurs. Si on a Jésus au milieu de nous, je serai satisfait. Je vais boire de ce puits du salut. Je serai satisfait avec la viande qui descend du ciel. Je serai dirigé par l'Esprit de Dieu. On aura l'unité avec les frères, mais je dois être disponible de dire, peut-être j'ai tort, j'ai besoin d'aide, je veux que Dieu m'enseigne, je veux être dirigé par l'Esprit, je veux être un avec mes frères et mes sœurs. Je crois honnêtement que ce genre de message ici peut changer ma vie, ma relation avec les gens. Parfois je classifie les gens, je les appelle hillbillies, c'est pas juste d'une certaine façon. Mais d'une façon typique, stéréotypée, génération après génération, des genres de vie étranges, des comportements bizarres, ça pourrait être corrigé et changé par Jésus-Christ, de pardonner mes ennemis, d'aimer les gens qui sont différents de moi. Ça inclut les étrangers, d'atteindre quelqu'un que je ne comprends pas, d'avoir une capacité accrue dans ma vie. Pour l'amour de Dieu. On a besoin ici en Baltimore. Partout on va dans nos familles. On veut que nos familles restent ensemble. La façon dont elles restent ensemble, c'est en apprenant ces choses-là. Le monde est rempli d'offenses. Mais on doit apprendre comment vivre dans le pardon. Et la croissance et la maturité. Si vous êtes ici ce matin, vous n'avez pas Jésus dans votre vie, c'est une invitation. Venez à Jésus. Ce n'est pas de venir à cette église ici, c'est de venir à Jésus. Ce n'est pas à propos d'un homme qui parle maintenant, c'est Dieu qui parle à ton cœur. Ce n'est pas les opinions des gens, c'est la Bible qui dit, à beaucoup qui l'ont reçu, leur a donné la puissance de devenir, le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Venez à lui aujourd'hui. Par la foi, et dites, Jésus, sauve-moi. Jésus, pardonne-moi. Viens à mon cœur. Donne-moi cette nouvelle vie. Je vais sortir d'ici avec vous dans ma vie. J'ai besoin de toi. Aide mon incrédulité. Enseigne-moi et dirige-moi. Au nom de Jésus. Amen.